Donc, bonjour à tous, bienvenue au podcast Le No Brainer. Donc, on reçoit une invitée tout à fait spéciale aujourd'hui. Donc, on accueille Mélanie Rock, qui est physiothérapeute depuis 25 ans et étudiante au doctorat à l'Université de Sherbrooke. Elle est en sciences de la santé. Elle est déjà détentrice d'une maîtrise aussi en sciences de la santé et enseigne à l'université, enseigne la formation continue et a un gros bagage clinique, en fait, là, derrière sa cravate. Donc, on est super contente de l'accueillir aujourd'hui, surtout que, bon, petite parenthèse, on est quand même le 11 février aujourd'hui, jour international de, en fait, des femmes en sciences. Donc, je trouve ça tout spécial parce qu'on est quand même trois femmes aujourd'hui là à discuter de sujets super intéressants, autant cliniques que scientifiques. Donc, je tenais à le souligner verbalement aujourd'hui pendant cet épisode tout spécial.
Je suis d'accord avec vous, c'est important que les femmes prennent leur place en science, puis c'est un grand débat là, présentement, je pense, dans la société de la recherche. Là.
Écoute, Mélanie, là, pour nous mettre en contexte, si tu nous présentais un peu ton parcours?
Mon parcours a commencé universitaire en éducation physique. J'ai commencé à Sherbrooke là, dans le début des années 90 pour me rendre compte que j'avais peut-être un potentiel d'aller plus en santé parce que j'étais très intéressée par tout ce qui était biologie, anatomie, physiologie. Donc, j'ai décidé. Puis c'était un gros revirement. Puis au secondaire, moi, mes parents ne m'avaient pas trop dirigée dans la vie. J'avais fait des affaires le fun. J'ai décidé de faire ce revirement de parcours-là. J'étais obligée de retourner même au secondaire à l'éducation des adultes, faire mes sciences santé à l'époque au cégep. Puis après ça, appliquer en médecine en physio. J'ai accroché là, à la thérapie manuelle. À 18, là, j'ai commencé à faire mon cursus de thérapie manuelle qui peut nous mener à l'obtention d'un fellow en thérapie manuelle au Canada. Donc, j'ai mis d'université qui est revenue sur mon parcours de vie. Puis j'avais besoin d'une partner pour études. Fait qu'on s'est mis à étudier ensemble. Puis on a fait notre fellow. On est allé chercher le fellow en thérapie manuelle. Et puis, pas longtemps après ça, je me suis impliquée à l'Association québécoise gère les cours de thérapie manuelle là, pour les physiothérapeutes au Québec. La division nationale d'orthopédie de l'Association canadienne de physiothérapie. Donc, j'enseigne maintenant dans ce cursus-là là, qui forme les physiothérapeutes. C'est une grosse affaire à se gérer à l'international, ce qu'on fait les thérapeutes manuels en physiothérapie par un organisme qui s'appelle l'IFOMT. Puis l'IFOMT, c'est le watchguard là, international. Quand tu veux devenir pays membre de l'IFOMT, il faut faire une demande, il faut passer par un CE. On a voulu aller chercher cette reconnaissance-là. Et puis, on était un des seuls pays. Donc, ça s'est à dire, à un moment donné, de fil en aiguille, les Français sont venus à nous pour nous demander si on pouvait là, les parrainer pour qu'ils puissent accéder à ça. C'est un peu pour se former les kinésithérapeutes. Il y avait des fellows en France qui pouvaient commencer à apprendre à devenir enseignants, travailler avec nous comme co-enseignants ou assistants dans nos cours. En théorie, il aurait dû être rendu autonome là, dans certains niveaux. Avec la pandémie, ça a tout brassé. Donc, ceci étant dit, c'est ça. J'enseigne dans ce programme-là avec les Français. Je suis même sur le comité de curriculum là-bas pour essayer de monter un curriculum qui va leur être propre puis qui va refléter aussi un peu ce qu'ils font, parce qu'on a de la culture hein, dans la thérapie manuelle. Si on fait juste regarder les différents métiers, ostéo, physio, chiro. C'est ça, puis tranquillement, pas vite, en enseignant la thérapie manuelle, je me suis dit, merde, je suis un peu limitée au niveau de ma compréhension de médecine basée sur les évidences scientifiques. On n'a pas été élevé dans cette culture. On en parlait, mais on nous donnait des articles, lisez ça, puis tu avais des questions à l'examen, mais tu comprenais absolument rien. Tu n'étais pas capable d'interpréter les données statistiques. On sait qu'en science, quand même, les choses...
Bien des affaires.
Hein? Si tu connais tes tests, tu es capable de leur faire dire qu'est-ce que tu veux aux statistiques. Bon, et bien, à un moment donné, j'enseignais en formation continue, puis je me trouvais un petit peu limitée pour être capable d'interpréter la science. Puis c'était devenu un courant bien à la mode là, de dire qu'on faisait de l'evidence-based médecine ou physio, whatever. Donc, ceci étant dit, j'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur. En plus, il fallait que j'enseigne des valeurs métrologiques de tests, puis puis j'avais de la misère à l'interpréter. Fait que je me suis dit, non, ça ne marchera pas là. Il va falloir que j'aille me chercher plus d'informations là-dessus. C'est là que j'ai décidé de m'inscrire à maîtrise en recherche en sciences santé. J'avais eu la chance de rencontrer à l'université professeur Nathalie Godreau. On avait eu des belles discussions là-dessus. Elle m'avait dit, viens faire un stage à mon laboratoire. Tu sais, il y a des bourses pour ça. Tu vas peut-être avoir une bourse pour ça. Et puis, tu vas voir c'est quoi la recherche. Puis si ça te tente, ben, on pourrait faire des projets ensemble. Fait que j'ai effectivement fait un petit stage de recherche avec elle. Puis pendant cette période-là, ben, j'ai dit, hey, c'est le fun, ça fait changement. Puis j'étais capable de me le permettre parce que j'étais propriétaire de ma clinique de physio. Fait que j'étais capable de me libérer du temps pour faire ça. Fait que, je vais me payer un cadeau, j'aime ça étudier. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise en recherche. Puis j'ai fait ma maîtrise en 2016. Je suis rentrée à la maîtrise en recherche. J'ai fait ça, j'ai fait des beaux projets avec professeur Godreau puis professeur Morin. On a validé un appareil pour mesurer des propriétés viscoélastiques, des points gâchettes, parce que mon domaine d'intérêt, c'était les douleurs myofasciales. Puis dans le phénomène des douleurs myofasciales, on parle beaucoup des points gâchettes. Fait que je me suis concentrée beaucoup sur ce phénomène-là pendant ma maîtrise. C'est un phénomène qu'on a... on a essayé de mesurer parce qu'il y a beaucoup de controverses dans la littérature. Ça existe-tu, ça n'existe pas, ce phénomène-là? Donc, c'est sûr qu'avec ma maîtrise, mon mémoire m'a penchée beaucoup sur le sujet. Et puis, pendant mes études à la maîtrise, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste des points gâchettes qui existaient dans la vie. Il y avait d'autres affaires comme des fascias, peut-être, qui pouvaient être source de douleur. Fait que ça m'a allumé des lumières. Puis, on dirait que je suis restée sur mon appétit avec ma maîtrise. Puis, j'ai commencé à... J'ai bien aimé écrire. Ça m'a bien surpris, un article scientifique que j'en ai écrit deux à la suite de ma maîtrise. Et puis, j'avais participé à la rédaction d'un article aussi. On a parlé de François tout à l'heure, François Lalonde, qui est ostéopathe, qui détient un doctorat. Fait que j'ai travaillé sur un projet de recherche avec François à l'époque, là, dans le temps que je faisais du triathlon, là, sur l'adaptation physiologique des triathlètes, là, des newbies en triathlon. Fait, tout ça m'avait donné le goût de continuer. J'ai pris une petite année pour réfléchir à tout ça. J'ai vendu ma clinique, puis j'ai décidé de me lancer, faire le grand saut, faire mon doctorat. J'ai commencé mon doctorat l'année passée. Fait que là, j'ai une année et demie de fête. Puis là, ben c'est ça, c'est pas toujours, on fait pas toujours ce qu'on veut en recherche, là, mais j'ai eu la chance de pouvoir rester avec la même équipe de direction. Et on a juste changé de région. Là, quand j'ai fait ma maîtrise, on travaillait dans la région de l'épaule. Là, on est rendu à le plancher pelvien de la femme qui a des douleurs vaginales. Fait que il y a bien du monde qui m'ont dit, hey boy, tu as changé de région, mais. Tu sais, le système myofascial, que tu sois, selon moi, dans l'épaule ou dans le plancher pelvien, à un moment donné, il y a des choses qu'on va être capable de découvrir là qui vont peut-être pouvoir se transférer, pas parfaitement, mais dans d'autres régions du corps. Fait que les trouvailles qu'on va faire là, pendant ma maîtrise, pendant mon doctorat dans le plancher pelvien, vont peut-être être applicables pour d'autres régions du corps humain. Puis là, ben mon domaine d'intérêt aussi dans les douleurs myofasciales, c'est le traitement à l'aide de l'aiguille sèche. Donc, en physiothérapie, il y a des physiothérapeutes qui utilisent des aiguilles de type acupuncture pour aller traiter des douleurs myofasciales, pour relâcher des muscles raides, des muscles tendus. Et puis, c'est un peu ça là, qu'on va faire là, pendant mon doctorat. On va voir si c'est faisable de traiter des femmes qui souffrent de vestibulodynie provoquée à l'aide d'aiguilles sèches. Fait que tout ce grand parcours-là pour m'amener aujourd'hui, là, après 25 ans de pratique, être rendu au doctorat, puis essayer de comprendre encore la science, essayer d'aller appuyer des choses qu'on fait en physiothérapie, même en thérapie manuelle, là, parce que même si je travaille beaucoup avec l'aiguille, les concepts là, de traitement, mettons des tensions musculaires, des fascias, des poids gâchettes, manuelles, aiguilles, il y a des preuves scientifiques qui vont démontrer qu'on a les mêmes effets là, sur du court terme avec ces différentes modalités de traitement-là. Fait qu'on essaye d'aller en savoir plus sur ces choses-là. Super intéressant. Puis aussi, en même temps, bien, en ayant été clinicienne pendant 25 ans, puis en ayant eu plusieurs années de ma pratique que je n'ai pas compris la littérature, puis je me suis limitée à lire, ou j'avais pas le temps de lire la science, bien, je me suis dit, tiens, moi, je pourrais être une sauveuse, puis je pourrais peut-être devenir un agent vulgarisateur de la science en connaissant la science, puis en étant clinicienne, essayer de faire le pont, parce qu'on parle beaucoup hein, du gros fossé qu'il y a entre la clinique et la recherche, que les informations qu'on va générer en science, bien, avant qu'ils arrivent aux cliniciens, ça peut prendre 10 ans. Fait que la clinique devrait évoluer beaucoup plus rapidement si on avait quelque chose entre les deux pour faire le pont. Puis je me dis, c'est peut-être des gens comme nous qui sont des cliniciennes à la base puis qui ont décidé d'aller en recherche. Je ne serais jamais une grande chercheuse à mon âge à faire un doctorat. Je vais générer des belles données de science parce que je veux faire ça, mais je ne deviendrai pas non plus une chercheuse internationale, on s'entend, mais je peux être un super bon catalyseur d'informations scientifiques, vulgariser, la transférer à la clinique, faire avancer la clinique plus rapidement. Fait que c'est un peu le rôle, je pense, que je vais avoir une fois que mon doctorat va être terminé. Puis j'ai déjà commencé là, d'essayer de faire ce pont-là, là, puis d'essayer de vulgariser un petit peu les choses de la science, autant quand j'enseigne à mes étudiants en physio ou à la population générale aussi. Là. Fait que j'aime bien ça faire ça.
Ouais, j'aime beaucoup ton idée de catalyseur. Là. C'est vrai que, par exemple, on a des expériences de cliniciens sur de longues années, bien, c'est clair qu'au niveau du profil du chercheur international là, qui est affilié, qui a des chaires de recherche, etc., bien, des fois, c'est des idées qui sont plus ou moins réalistes, mais qu'on peut contribuer à être justement, là, comme tu l'as mentionné, catalyseur de diminuer le fossé entre la pensée du clinicien puis la pensée du chercheur, puis d'essayer de faire une espèce de pont entre les deux. Là.
Le transfert de connaissances, dans le fond, là, tu sais, c'est, je pense que des cliniciens en recherche, on pourrait vraiment être des personnes importantes là, dans cette liaison-là entre les deux domaines qui devraient travailler ensemble puis être plus proches. Là.
Ben, quand on y pense, c'est la recherche, je veux dire, son lieu d'être, c'est justement permettre l'application de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes de savoir-faire, de savoir-être, de différentes choses. Si on ne peut pas l'appliquer, la science, je veux dire, à part avoir des connaissances qui émergent, je veux dire, faut éventuellement qu'on puisse trouver une façon de les utiliser, ces connaissances-là. Puis c'est plate, si ça prend 10 ans, sont déjà désuètes quand ils arrivent en milieu clinique ou, tu sais, je veux dire, il faut quand même. Cet aspect de catalyseur, je trouve qu'il est très, très, très important. Puis je trouve que ça aussi, c'est un défi que les cliniciens ont à avoir parce que les études supérieures sont pas nécessairement toujours adaptées à la vie d'un clinicien.
Ben justement, là, tu sais, tantôt, tu as dit que ben, tu enseignais la thérapie manuelle pour ben, les physiothérapeutes ici au Canada, mais aussi les masseurs kinés en Europe. Donc, tu as pu être en contact avec on va dire, dichotomie, là, dans le sens que, tu sais, entre le clinicien qui arrive à ton cours, puis toi que là, en ce moment, depuis les dernières années, tu as développé la pensée critique. Si tu nous parlais un peu là, de tes perceptions.
Ben écoute, tu sais, il y a vraiment, depuis, je pense, tu sais, je dis 15 ans, mais le temps passe vite, ça fait peut-être 20 ans qu'il y a un gros courant de passé, là, tu sais, que là, ce qu'on fait en clinique, il faut que ça soit backé par la science. Fait que, tu sais, puis c'est pas noir ou blanc, puis je pense que c'est là que ton mot dichotomique, il fait tout son sens, là, c'est gris. Fait qu'on n'a pas de mot encore pour exprimer ce chose-là, ce zone grise-là entre le oui puis le non, là. Ce qui fait que, oui, on veut backer ce qu'on fait, mais il y a des choses qu'on fait qui fonctionnent avec nos patients. Puis la définition de la médecine basée sur les évidences, c'est oui, ce qui existe en science, mais c'est aussi l'expérience du clinicien. Puis je pense que dans cette définition-là, il y a cet aspect-là, parce qu'on ne peut pas tout démontrer scientifiquement ce qu'on fait en clinique. Puis là, ben, à cause de ce gros courant de pensée-là, tu arrives, puis de plus en plus, soit les jeunes, ben, les jeunes, je te dirais, à l'université, on les trempe beaucoup dans la science maintenant, hein, comme en physiothérapie, nous, ils font des maîtrises cliniques. Là. Avant, on faisait des bacs, puis on n'avait pas le côté recherche. Là, ils ont quand même une introduction, puis ils sont mis en contact avec ça. Mais si tu prends, mettons, les kinés masso en France, ils veulent s'en aller vers ça, mais il n'y a pas personne qui leur donne les outils. Mais ça change, hein, ça change partout, puis ça change quand même à une vitesse grand V, je trouve, là, de plus en plus. Je pense qu'on est en train d'être capable là, d'envoyer ces données scientifiques-là, puis qu'ils soient catalysés puis interprétés de mieux en mieux. Mais il y a un grand fossé encore. Puis tu sais, avant que les cliniciens comprennent les données de la science, ça va être encore long, malheureusement. Puis je pense que les nouveaux programmes universitaires, tu sais, qu'on a depuis que les maîtrises, mettons, je vais parler pour la physio parce que c'est ce que je connais, depuis que nos cliniciens sortent avec des maîtrises, bien, ce fossé-là, il est moins grand qu'il était, mais il y a encore bien du chemin à faire parce que, tu sais, même à l'université, j'ai des étudiants, là, souvent, sont rendus en troisième, en quatrième année de leur programme, ils vont graduer bientôt, puis ils ont des travails, un petit peu de recherche littéraire à faire sur le sujet approfondi, puis je reçois le travail puis je fais comme non, c'est pas encore à point, tu sais, il manque un petit peu. Fait que la science, c'est compliqué. Puis il y a bien de la petite poutine en arrière, des tests, des valeurs dessus, puis tout ça pour comprendre. Puis après ça, bien, à la base, es-tu capable de voir si l'étude que tu viens de lire est bien faite? Es-tu une bonne métaux? Y a-tu un échantillon statistique assez grand pour dire que tu as une différence statistiquement significative? Mais même si une différence statistiquement significative, est-ce qu'elle est cliniquement significative? Fait que, tu sais, là, nous, on le sait, là, on a fait de la recherche, on est étudiant en recherche, puis c'est toute une affaire de comprendre ça, là. Puis tu peux pas faire comprendre ça à quelqu'un en 4 ans, lui montrer son métier. Toutes les pathologies, tous les domaines, parce que, mettons, tu es en physio, tu es étudiant, tu vas apprendre de la cardio, de la neuro, de l'ortho. En 4 ans, tu ne peux pas faire des gens qui vont être capables d'interpréter toute la science. Puis des
cliniciens, avoir 2 chapeaux. Là.
Des cliniciens pluripotents dans tous les domaines. Tu sais, c'est. Fait que je pense que la dichotomie existe, Isabelle.
Chacun ouais, son métier, hein? Chacun son métier aussi. Hein? C'est bien d'avoir des cliniciens qui s'intéressent à la science, mais on ne peut pas non plus exceller et en science et en clinique, puis jongler avec tout ça. Donc, il faut choisir aussi dans les programmes universitaires. T'sais, on va exposer les étudiants, on va leur faire faire des travaux pour justement les faire baigner dans ça, mais on ne peut pas faire d'eux non plus des chercheurs de renom international et tout, parce qu'en 4 ans, 5 ans, on n'a pas le temps de faire tout ça non plus. Donc, je pense que c'est intéressant justement d'avoir juste une exposition à la science, d'intéresser, mais de quand même laisser une place à la clinique qui est tout à fait honorable là, à un certain point. Là. Il ne faut aussi pas laisser la clinique de côté puis, parce qu'on en a besoin des cliniciens.
Oui. Justement, là, tantôt, vu que tu vois cette différence entre l'Europe et le Canada, là, ben, par ton expérience puis avoir enseigné entre les deux puis aussi où tu voudrais les amener, si on se ramenait au niveau canadien et même québécois, ben, tu sais, la thérapie manuelle, hein, c'est comme une grande famille qui sous-tend plusieurs professions qui l'utilisent. Les différences, les ressemblances de cette grande famille-là, de la manière qu'on va les utiliser. Toi, tu sais, parce que tu travailles dans une clinique multidisciplinaire où il y a plusieurs types de professionnels. Toi, qu'est-ce que tu perçois de ça, de ces différences-là, mais disons-le.
Bien, moi, j'ai après 25 ans de pratique, avoir enseigné et touché à pas mal de choses, j'ai un esprit ouvert que d'autres n'auront peut-être pas. Là, il y a des gens qui vont écouter ce podcast-là, ça va être des physios, puis ils vont dire, ben non, on ne fait pas comme les ostéos. Puis il y a des ostéos qui vont dire, voyons, les physios ne font pas comme nous. Puis moi, ma vision de la chose, là, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Puis je vous donne un exemple, là. Moi, mettons, j'ai un patient qui a une douleur thoracique. Là. Moi, comme thérapeute manuel, physiothérapeute, je vais probablement arriver avec une approche qui va être très articulaire. Hein, je vais évaluer la mobilité de mon patient, sa mobilité active, passive, sa mobilité accessoire. Je vais trouver une raideur, une articulation. Je vais aller traiter ça. Je vais mobiliser la vertèbre, la côte, peu importe ce que j'aurai trouvé. Mais... Tu sais, sur ces vertèbres-là, il va s'attacher des ligaments, des fascias, il va s'attacher des organes, des viscères. Puis l'ostéopathe va peut-être me dire, « Ouais, mais ce problème-là, là, c'est son péricarde, le problème. C'est son péricarde. » Puis lui, va avoir une approche plus viscérale, va aller travailler le péricarde, va travailler les fascias du cœur, les ligaments qui attachent le cœur. Puis il va avoir, en mobilisant cet organe-là, mobilisé la même vertèbre que moi j'ai mobilisée de façon plus mécanique, avec une approche plus articulaire. Puis au bout de la ligne, là, le patient, là, il va aller aussi bien avec mon approche à moi que ton approche à toi. Puis t'en as d'autres qui vont me dire, hey, « Eh non, ça, c'est la chaîne myofasciale longitudinale antérieure profonde. » Parce que le cœur fait partie de cette chaîne de fascia-là. Puis en plus, ce patient-là, ben, tu n'as pas vu, il y avait une fascia patipentaire, fait que ça tire son fascia du cœur, puis je vais aller mobiliser son pied ou je vais inhiber son fascia en dessous du pied avec un strain contre strain, puis son cœur va aller mieux, puis il n'aura plus mal au thorax. Fait que, moi, ma vision de la thérapie manuelle, c'est on va mettre nos mains en quelque part pour faire relâcher probablement une tension. Quand on fait de la thérapie manuelle, habituellement, hands-on, on va aller changer les vecteurs de la tension dans un système musculo-squelettique ou autre. Mais, tu sais, quand on met nos mains sur le patient, c'est ça qu'on veut faire. On veut changer quelque chose dans son corps. Si mon patient, là, mon constat, moi, que j'ai fait, c'est qu'il y a une instabilité, puis une vertèbre qui est folle, puis qui n'est pas contrôlée, qui s'en va toutes les directions, je ne me mettrai probablement même pas les mains dessus. Je vais lui montrer à la stabiliser, cette vertèbre-là. Puis, je vais passer par un autre chemin. Je vais faire, premièrement, prendre conscience qu'il y a des muscles muscles qui peuvent contrôler ce segment vertébral-là. Puis après ça, je vais essayer de trouver le petit chemin dans son système nerveux pour le mettre en action, ce muscle-là, puis commencer à avoir un impact sur ce vertèbre-là qui bouge trop. Fait que, ceci étant dit, thérapie manuelle, là, on est plusieurs thérapeutes qui travaillent dans ce spectre-là, que ce soit un chiro, un physio, un masso, un ostéo, mais je pense qu'on va tous prendre un chemin différent pour peut-être arriver au même résultat.
Selon ton point de vue, là, c'est quoi la plausibilité de ces chaînes-là? Parce que tu sais, en ostéopathie, on ne se le cachera pas, là, on fonctionne encore sur la dysfonction somatique ou la dysfonction somatique ostéopathique ou la dysfonction tout court. Là. Il y a plusieurs terminologies qui sont utilisées. Là. Fait que là, je me questionne. Dans la littérature, pour nous, la dysfonction somatique, c'est beaucoup remis en cause. Puis aussi, au niveau des thérapies manuelles, ben il y a aussi beaucoup de remises en cause sur les effets qu'on aurait réellement sur l'aspect tissulaire, du moins. Donc, la plausibilité de ces liens-là, pour toi?
C'est sûr qu'en ayant été entraîné comme physiothérapeute, thérapeute manuel, on va être entraîné pour raisonner par cadran. On sait qu'il y a des affaires qui peuvent se produire à distance, là. Mais classiquement, moi, quand j'ai eu mon training là, en thérapie manuelle comme physiothérapeute, là, c'était cadran sup, cadran inf, puis il y a 20 ans, on ne parlait pas des liens entre ces deux cadrans-là. Puis mon approche de traitement va être beaucoup de commencer par voir c'est où que le patient a mal, puis qu'est-ce qui peut influencer cette région-là, mettons, d'un point de vue mécanique, parce que je suis plus dans la mécanique, moi. Okay? Puis je vais essayer de voir d'un point de vue articulaire, tu sais, je vais commencer à chercher localement, là. Tu sais, je ne commencerai pas à chercher des puces à l'autre bout, là, le plus loin possible. Là. Tu sais, si mon patient a mal au cou, je n'irai pas tout de suite à regarder ses orteils, mettons. Là. Je vais commencer par regarder son cou, son occiput assis sur cette colonne vertébrale-là, ses épaules, son thorax. Tu sais, je vais regarder dans cette région-là, qu'est-ce qui se passe. Je vais sûrement trouver des affaires parce qu'il n'y a pas personne de parfait. Puis des problématiques qu'on a, tout le monde dans tous les cadrans, même quand on a pas mal nulle part, on s'entend. C'est facile de trouver des bobos, c'est facile de traiter des affaires. Il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Je vais commencer à traiter qu'est-ce que moi, avec mon expérience clinique, je pense qu'il est plus plausible de créer ce problème-là. Mais c'est quand ça ne va pas bien, hein, mon patient, puis que là, j'ai traité qu'est-ce que je pensais, hypothèse numéro 1, ça ne marche pas. Traite hypothèse numéro 2, ça ne marche toujours pas. Là, je vais sortir de ce cadre-là, puis je vais aller voir plus loin. C'est là que je vais aller penser à ces affaires-là. Là, je vais dire, OK, qu'est-ce qui pourrait avoir une influence sur cette douleur-là qu'avait ce patient-là, mettons, en thoracique, si on revient sur mon exemple. C'est là, je vais dire, qu'est-ce qu'il y a comme influence à cet endroit-là, tu sais. Puis, je pourrais penser à quoi. Puis, c'est là que je vais me mettre à taponner, j'appelle ça du taponnage, là, puis chercher, parce que c'est moins, dans mon raisonnement clinique à moi, c'est moins organisé, ça. Quand j'arrive là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui peut avoir une influence sur cette région-là? Mais, c'est ça, mais c'est a priori, c'est pas comme ça que je vais réfléchir. Fait que mon approche est mécanique, tu me dis que tu as mal au thorax, je t'évalue, tu n'es pas allé en extension en D5, D6, c'est sûr que je vais commencer par travailler ton extension en D5, D6. T'sais, ça, c'est ma manière à moi de penser, c'est comme ça que j'ai été entraînée, c'est comme ça que j'entraîne mes jeunes thérapeutes, mais à un moment donné, avec les années d'expérience, puis aussi avoir les patients des autres. T'sais, parfois, j'aime pas ça dire ça, mais c'est comme ma joke que je fais. Je dis, moi, je vois souvent les cacas des autres. Avec 25 ans d'expérience, tu te ramasses avec les pauvres patients que personne n'était capable d'aider. Là, tu as de l'expérience puis tu as du succès avec ces patients-là. Fait que les autres thérapeutes, ils disent, hey, Mel, tu prendrais-tu mon patient? Puis moi, hey, moi je travaille avec des aiguilles. Là, il y en a qui pensent que c'est des baguettes magiques. Là. Hey, on va l'envoyer à Mel, elle va y mettre des aiguilles. Peut-être qu'ils pensent aussi que je fais du vaudou, quelque chose comme ça. Ça va, elle est bonne pour, avec ses aiguilles, elle est bonne pour ramener ces patients-là. C'est pas avec ses aiguilles, c'est un outil. Mélanie, elle réfléchit, elle raisonne, tu sais. Puis quand tu arrives au bout de la chaîne alimentaire, puis tout le monde est passé de ça, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Puis c'est là que je vais partir sur ces tangentes-là, un petit peu plus loin à distance. Mais tu sais, j'ai eu beaucoup d'amis, beaucoup de collègues de travail qui ont passé dans ma vie, qui étaient ostéopathes, qui sortaient de l'école, puis qui commençaient à travailler bien, bien loin du problème. Puis tu sais, je les ai quand même mentorés, même si je n'étais pas dans le même métier qu'eux autres, parce qu'à un moment donné, on touche à nos patients, puis on réfléchit, puis je leur disais, t'as-tu commencé par regarder plus proche de ton bobo? Puis, tu sais, commence à faire qu'est-ce que tu sais dans ce coin-là. Fais du ménage. Puis à un moment donné, tu vas voir plus clair. Puis peut-être que tu auras le goût d'aller plus loin. Fait là, si je reviens à la question d'Isabelle, je dérape. Moi, je parle beaucoup. Oui, j'y crois que ça se peut que les problèmes viennent de la distance, mais pas tout le temps. Commencez par regardez ce que vous avez devant vous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans la zone problématique. Puis après ça, on pourra penser à déraper puis s'écarter un petit peu plus loin. Mais je pense que souvent, on a le nez dessus. Puis je ne veux pas vous dire que les problèmes sont toujours où ça fait mal. Ça, je ne crois pas à ça. La douleur, puis même avec mes étudiants là, à l'université, je leur dis, arrête de me dire la douleur est là. Ça ne veut pas dire que ça vient, pas parce que mal là que le problème est là. Il faut être capable de... Puis tu sais, on a un système nerveux qui envoie ses tentacules un peu partout dans le corps humain. Ben moi, je crois beaucoup à... J'ai mal dans la région du pouce. Ben cette région-là est innervée par C6, peut-être C7. Je vais aller voir ce qui se passe dans mon rachis cervical, la C6-7, la mécanique de cette région-là. Parce... Puis après ça, je vais aller voir mon pouce. Puis un système nerveux qui a un fil électrique qui connecte ces deux affaires-là ensemble. Il va-tu bien, lui? Il bouge-tu bien dans son environnement? Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que ma pensée est structurée. Mais je ne partirai pas à aller voir son gros orteil parce qu'il a mal au pouce en premier lieu. C'est un peu loin. Puis oui, ça se peut, mais ce n'est pas le premier move qu'on devrait faire, selon moi. Puis je sais qu'il y a beaucoup de controverses, là. Tu sais, des axes... je vais dire des choses que je sais, mais que je ne sais pas, là. Tu sais, comme des axes crânio-sacrés, mettons. J'ai souvent des amis ostéo qui écoutent. Là, je leur dis, qu'est-ce que tu écoutes? Le bruit dans la salle.
Nous autres, on rit.
Nous, on rit parce que, oui, ben, tu sais, ça fait partie de notre profession, mais c'est sûr que, ben, je pense qu'on a même de la difficulté entre nous à savoir qu'est-ce qu'on écoute.
Qu'est-ce que tu écoutes?
Ouais, qu'est-ce qu'on écoute?
Ça, c'est débattu là, en ce moment. Là. Qu'est-ce que tu écoutes? Je suis capable d'écouter la même affaire que toi si tu me dis qu'est-ce que tu as écouté? Je suis capable de reproduire qu'est-ce que tu as écouté? Moi, toi, est-ce que tu es capable de reproduire toi-même qu'est-ce que tu viens d'écouter?
Tu parles de fidélité, là. Juste de palper une vertèbre. On est trois thérapeutes, on se prend une vertèbre. OK, je m'en vais palper l'apophyse épineuse de D5, là. Puis on va probablement, les trois, avoir une réponse différente.
Oui. Hein? Bien, justement, il y avait une de tes copines, hein, moi, quand j'ai rentré à la maîtrise, je pense que c'est Annie. Ouais. Elle avait fait la fidélité ou la sur les étudiants en physiothérapie à palper une épineuse, je ne me souviens plus à quel niveau. Là.
C'était lombaire, je pense.
Oui, lombaire. Puis à côté, il y avait un petit appareil pour faire l'antériorisation et la postériorisation de la vertèbre. Puis voir si les étudiants, là, on pouvait réduire le fait que les étudiants ne donnaient pas la même réponse à chaque fois qu'ils palpaient une épineuse en se donnant comme point de repère la fausse vertèbre mécanique. Puis finalement, dans ces résultats, à mon souvenir, ben ça disait qu'on n'était pas capable de réduire nécessairement la réponse. Donc, les réponses demeuraient hétérogènes, mais ce que ça faisait en sorte, c'est que les étudiants étaient bien contents d'avoir une rétroaction sur leur manière d'évaluer la vertèbre. Ça, il y avait des bons résultats par rapport à ça. Donc, même quand on essaye de standardiser un peu le processus, on ne réussit même pas à avoir une fidélité inter-clinicien ou inter-étudiant qui a de l'allure, finalement.
Bien, même Isabelle, si je peux faire un commentaire, tu sais, quand on décide de faire un projet de recherche, des fois, on a une idée, finalement, on la teste, puis ça ne marche pas, puis on passe à d'autres choses. Puis au début, il y avait cette espèce de modèle-là, là, le demi qu'on appelait au laboratoire, où est-ce qu'on faisait des PA, je ne sais pas si vous faites ça en ostéo, une pression postéro-antérieure, mettons, sur la vertèbre. Puis nous, on utilise des grades pour dire un peu, essayer de déterminer quelle force qu'on induit sur la vertèbre. C'est les grades de Maitland. Puis, tu sais, tu as des grades dans une zone de non-résistance. Puis, quand tu arrives à ta première résistance dans le tissu, puis là, tu as ta déformation élastique du tissu. Là, tu as ta première résistance, puis la fin de la résistance. Fait qu'on a des grades avant, puis après cette première résistance-là, dans le continuum. Puis, Annie et moi, on était des cliniciennes. Il appelait ça expérimenté. Là. Puis on essayait avec le demi de voir, moi, si tu me dis fais un grade 2, Mélanie, en thérapie manuelle, je m'installais sa vertèbre, je poussais. Puis après ça, Annie, elle faisait son grade 2. Et puis moi, puis Annie, là, juste pour faire une petite parenthèse, on étudiait ensemble au bac des années 90 en physio. On a fait notre fellow thérapie manuelle ensemble, on a fait nos aiguilles ensemble, fait qu'on a un cursus assez similaire. C'était ma partner d'études, on s'est mobilisé. Mais Christy, fidélité à être évaluateur, zéro point de barre. Moi, mon grade 2 puis mon grade 4, là, on n'était pas tout pareil là, quand on regardait avec l'ordinateur puis un outil de mesure. Puis on a le même cursus, on a eu le même entraînement, les mêmes années d'expérience. Tu sais, comme tu ne peux pas avoir deux personnes qui ont juste fait la même affaire, là, puis on était carrément pas pareil l'une puis l'autre.
Ben, c'est parlant. Toute,
hein, la subjectivité aussi, là, du geste qu'on fait avec nos mains, là, c'est donc, spécial.
Oui, c'est spécial. Donc, quand on revient justement au concept d'axe, bon, on ne se fera pas d'amis avec ce sujet-là, mais quand on revient justement, quand on revient à ce concept d'axe-là, compte tenu que là, quand on mobilise une vertèbre antérieure et postérieure, on n'est même pas capable de se reproduire sur deux personnes avec le passé ou les expériences assez similaires. Juste trouver un axe sur un péricarde ou sur un cœur.
Y a des, ou l'écoute
crânio-sacré. Déjà, de trouver un axe qui est représentatif pour tout le monde, c'est là qu'il y a un point d'interrogation qui vient à apparaître dans le processus. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Anaïs, là.
Reste que, tu sais, je pense que quand on travaille avec que ce soit de la palpation, des techniques ou des gestes plutôt de thérapie manuelle, ben, tu sais, on ne pourra jamais enlever la subjectivité, tu sais. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit aussi peut-être cesser d'aller chercher en disant que tous les thérapeutes doivent avoir la même gestuelle, la même sensation, parce que je pense qu'on s'en va dans le fossé, là, en faisant ça. Puis je pense qu'il y a un aspect aussi très contextuel dans tout ce qui est palpation puis pratique même de thérapie manuelle qui fait que deux patients vont avoir une expérience différente. Puis en fait, c'est la rétroaction du patient qui va vraiment nous aider à nous améliorer pour un cas en particulier. Fait que je pense, oui, c'est intéressant de faire des découvertes et avancer la science en thérapie manuelle de toutes sortes, mais il y a aussi cet aspect-là. Je pense que c'est peut-être un peu délaissé à cause de la subjectivité, puis que je sais qu'en recherche, on veut moins de subjectivité et plus d'objectivité. Mais c'est voir comment on peut intégrer, puis ça vient avec la thérapie patient-centrée, ben comment avoir une bonne rétroaction du patient face aux gestes que je vais faire. Comment l'intégrer dans les décisions, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il voudrait qu'on lui fasse, où il voudrait qu'on le touche. Tout ça, ben, tu sais, c'est des questions, je pense, valables à ajouter. Puis ça, c'est vraiment l'expérience clinique puis l'empirisme de la pratique qui fait développer cet aspect-là aussi.
Ben, ce qui m'amène à te demander, Mélanie, tu sais, il y a quand même dans les dernières années des données probantes là, qui ont sorti par rapport à la thérapie manuelle. Puis l'un de ces débats-là, c'est ben, justement la thérapie manuelle, quand on mobilise, quand on fait une technique spécifique, ben, finalement, ça ne fait pas les effets qu'on pense. Ça, c'est un. Puis deux, ben, il y en a même certains qui diraient ben, le hands-on, ça vaut pas grand-chose, finalement. Toi qui enseignes la thérapie manuelle au niveau physiothérapie, tu sais, ce débat-là, qu'est-ce que ça en dit dans ta sphère professionnelle?
Bien, la première affaire que je vais dire, c'est que les modèles de soins en physio, en tout cas, là, je vais parler encore une fois pour ma patrie, ils ont beaucoup évolué depuis 25 ans. Tu sais, on a des beaux modèles maintenant, là, des vecteurs de douleur, là, il y en a plusieurs. On n'a pas juste un aspect maintenant, puis s'il y en a qui veulent lire quelque chose de super bien, là, allez voir ce qu'a publié Yannick Tousignan-Laflamme, qui est directeur du programme de physiothérapie à l'Université de Sherbrooke. Yannick est arrivé avec un modèle extraordinaire, les différents vecteurs de douleur. Puis des vecteurs de douleur, oui, tu en as des vecteurs qui sont biologiques, une vertèbre qui ne bouge pas bien, un tissu nerveux qui est comprimé en quelque part, mais tu as tout le côté psychosocial de l'individu qui va avoir une influence sur la réceptivité d'un traitement puis la capacité de changement. Tu sais, plus que tu as de facteurs de comorbidité puis plus que ton intervention physique comme thérapeute, elle risque d'avoir moins d'impact, mais qui vont avoir besoin d'un autre côté. Fait que, tu sais, ton patient qui va voir ton ostéo, qui est dans une approche un petit peu plus holistique, qui touche presque pas à son patient, qui joue quasiment avec l'énergie, bien, ce patient-là va peut-être bien répondre à ça. Tu sais, parce que, puis, excusez, là, dans toutes les thérapies qu'on fait, on sait qu'il y a un effet placebo aussi. Puis, il y a
l'alliance thérapeutique. Mais il se passe pas bien dans l'effet placebo, tu sais.
Non, mais l'alliance thérapeutique, qui compte pour 70 % de ce qu'on fait. Puis je le dis souvent, il y a des thérapeutes, des fois dans ma tête, je fais comme, il est donc pas bon, il n'a pas de bonne main, il ne comprend pas ce qu'il fait, mais il est écœurant que le monde, il a une belle relation, les gens, ils font confiance. Mais il risque d'avoir plus de succès que moi qui étudie comme une vraie nounouche depuis 25 ans, comme si je ne comprenais rien, tu sais, que je continue à faire des cours, là. Je ne sais pas ce que je cherche. Là. Je cherche
Je pense qu'on est dans les mêmes sphères de compréhension.
On ne prend pas vite la fille, elle est rendue au doctorat, elle va avoir 50 ans.
Mais je pense que le modèle BPS, le modèle biopsychosocial, où on doit, oui, prendre en compte, et, parce qu'il y a aussi ça, une mauvaise interprétation du modèle BPS, des fois que je vois que les gens disent, modèle BPS veut inclure le psychosocial comme des facteurs qui peuvent favoriser ou engendrer aussi des états d'hyperexcitation, des états d'hypervigilance, des états donc de douleur ou de réceptivité de la douleur qui est un peu plus grand. Puis, c'est comme si parce qu'on intégrait ces nouvelles données ou ces nouveaux facteurs, la biologie, on la tasse, mais non. Tu sais, c'est vraiment trois sphères qui sont égaux, et on doit les prendre sur le même pied d'égalité. Donc, il faut l'évaluer, la partie biologique, il faut l'évaluer, la vertèbre, il faut l'évaluer, l'épaule, les mouvements actifs, passifs, tout ça. Puis ensuite, c'est de voir le patient, ensuite de ça, sur son environnement personnel à lui. Vit-il du stress au travail? Est-ce qu'il y a des difficultés interpersonnelles? Donc, tu sais, c'est tout ça. Puis je pense que l'alliance thérapeutique, c'est savoir écouter, c'est savoir aussi juste des fois discuter avec le patient pour qu'il puisse retrouver dans ce 30 minutes, cette 1 heure, ce 45 minutes, un petit peu de liberté là aussi, sans pas juger, sans pas... Je pense que ce modèle-là que Yannick Tousignan, justement, là, très, très bien décrit là, dans ses multiples articles, ces modèles de soins-là sont très, très importants. Puis je pense que on voit de plus en plus un intérêt dans ces modèles-là pour peu importe la profession, que ce soit en ostéo, en physio, en ergo. Là, je pense que ça s'en vient très bien là, sur ces modèles-là.
Oui, puis ça revient à la question, tu sais, dans le fond, l'utilité du hands-on à ce moment-là. Ouais.
Bien, écoute, j'ai l'impression qu'on est en train de faire un shift de paradigme, qu'on était beaucoup sur des modèles mécaniques, puis à mon grand désarroi, parce que je suis très, très biomécanique, là, on est en train, j'ai l'impression, de s'écarter, changer de paradigme, puis s'écarter un petit peu de ces modèles biomécaniques-là. Puis parce qu'en plus, la science, on parlait tantôt des mobilisations, de la thérapie manuelle, les seuls effets démontrés scientifiquement, présentement, sont des effets neurophysiologiques. Vous allez me dire, mais la mécanique va être influencée par la neurophysiologie, là. Tu sais, ton tonus musculaire, ton système nerveux sympathique, tu sais, tout ça, c'est influencé par la neurophysiologie, qui est quelque chose de très global et très systémique qui se présente dans le système nerveux. Après ça, moi, si je suis comme clinicien, convaincue que mon patient, il manque d'extension droite à D4-D5, puis j'ai le goût d'aller faire une manipulation vertébrale pour y rétablir mécaniquement cette extension-là. Mais c'est correct de penser comme ça aussi. Mais moi, je peux dire de l'autre côté, ouais, mais de toute façon, une manipulation vertébrale, là, le seul effet qui est démontré, il est neurophysiologique. Là. Que je fasse une manip super compliquée en extension unilatérale ou que je fasse juste une décoaptation articulaire, je vais arriver au même résultat, puis voire même, moi, je commence à avoir mal aux mains après 25 ans de thérapie manuelle. Puis moi, je me fais des fois tasser dans le coin par des collègues thérapeutes manuels. On sait bien, toi, tu fais des aiguilles, puis tu fais de la recherche avec les aiguilles. Mais veux-tu que je te dise de quoi? Mon aiguille, c'est quoi le plus gros effet qu'elle fait? Il est neurophysiologique. Parce que j'ai-tu vraiment besoin, si ça ne me tente pas aujourd'hui, moi, d'aller faire craquer mon patient, là, excusez, on va utiliser des termes vulgarisés, là, faire craquer le patient, là, puis j'ai le goût d'y mettre une aiguille à la place, dans l'iliocostal à D4-5, là, on sait qu'il y a une innervation segmentaire en vertébrale, que je fasse une manipulation ou que j'y mette une aiguille dans l'iliocostal qui est gros de même puis qui est dur comme du bois, j'ai bien l'impression que vite, vite de même, là, des prochains 24 heures, il risque d'arriver pas mal le même effet sur son corps. Après ça, j'ai un patient qui a une sphère biopsychosociale. Ce patient-là, il a peur des aiguilles. Je n'en mettrai pas une aiguille, je vais aller le mobiliser. Puis, il ne veut pas que je le manipule parce que son beau-frère s'est fait paralyser par quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait et qui a fait une manipulation vertébrale. Fait qu'il a peur des manips, il ne veut pas d'aiguilles. Je vais aller faire des techniques de relâchement myofascial. Je vais aller lui montrer à bouger différemment. Je vais y expliquer sa pathologie. Puis selon moi, là, à the end of the day, on va peut-être tout arriver à la même affaire. Parce que, puis là, la dernière affaire, je veux dire, oui, on n'a pas démontré les effets mécaniques des. Puis c'est drôle, on a eu ce débat-là cette semaine. J'avais un cours de manipulation vertébrale, puis on était plusieurs grosses têtes de la thérapie manuelle en physio dans la même salle. Puis on a eu un gros débat, puis c'était le fun. Puis moi, je leur ai dit, bien, moi, je pense que c'est vraiment la neurophysiologie, oui. Puis les effets mécaniques, il y en a probablement, mais on n'est pas capable de les démontrer parce qu'on n'a pas les outils pour mesurer ça. Puis c'est ça le problème en science. C'est que là, on veut faire des interventions qui sont basées sur la science, mais on n'a pas toujours les outils de mesure pour démontrer tout ce qui se passe. Puis la dernière chose, c'est que la recherche est très stérile. Je vais comparer telle affaire avec telle affaire, mais dans la vraie vie, moi, je fais-tu juste telle affaire dans mon traitement? Non, je fais ça, 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 puis ça. Mais là, en science, si je vais être capable de démontrer que l'aiguille fait la même affaire que la manip, j'ai juste le droit de faire une aiguille à ce patient-là, puis dans l'autre groupe, juste une manip à ce patient-là. Alors que je ne ferai jamais juste ça dans mon traitement. Je vais utiliser une panoplie d'outils pour arriver à un résultat. Fait quand tu l'utilises tout seul, là, puis je peux parler de l'aiguille parce que je fais de la recherche là-dessus depuis quelques années, les revues systématiques de la littérature ont toujours la même conclusion, puis ça va être la même affaire probablement pour l'immobilisation ostéopathique ou thérapie manuelle. C'est bon, mais ça serait mieux qu'on l'utilise en approche multimodale. Mais en recherche, on ne l'évalue jamais en approche multimodale. On est toujours en unimodale.
Oui, c'est ça, c'est une des lacunes, là, les interventions complexes. Comment on peut les évaluer? Il n'y a pas encore de solution parfaite là, par rapport à ça. Des fois, on essaie d'isoler certaines variables de l'intervention complexe pour essayer d'aller chercher la variable dans l'intervention complexe qui va expliquer les résultats statistiques.
Et moi, je trouve ça intéressant comme question parce que je pense que c'est un questionnement qu'on a beaucoup dans notre communauté en ostéopathie, c'est qu'effectivement, en ostéo, on ne fait pas juste une écoute crânio-sacrée. On ne fait pas juste un traitement du péricarde. On ne fait pas juste une technique sur le mésentère. On ne fait pas juste du crânien. C'est rare que quelqu'un va vraiment faire une seule technique ou voie de soins telle qu'elle nous a été enseignée. On va prendre une panoplie de ces outils dits ostéopathiques pour le traitement du patient. On est quand même 45 minutes à une heure avec. Ça serait longtemps, une seule manip pendant une heure. Donc, c'est sûr que rendu là, au niveau de la recherche, ben c'est sûr qu'en ostéo, ben on sait qu'on manque un petit peu de données probantes, mais c'est parce que premièrement, ben si on va isoler, je pense, puis moi je fais une étude sur le viscéral, hein, puis je suis en train de dire que je vais isoler le viscéral, puis je suis pas sûre que je vais arriver nécessairement à des données très très intéressantes sur des lombalgies chroniques là. Mais bon, j'ai essayé, hein, verrons ce que ça va donner, mais je sais que d'isoler les outils, ben ça donne pas le même effet que le traitement complet, le traitement clinique qu'on fait usuellement là comme clinicien.
On passe 45 minutes à une heure avec les gens. Puis que dans un processus de soins général, en tout cas au niveau québécois, ben, il passe entre 5, peut-être 30 minutes avec un thérapeute, avec un professionnel de la santé. Donc, le gap de 20 à 30 minutes là, que tu jases et qui fait l'alliance thérapeutique, ben là, justement, parce que c'est ce qui m'amène à dire ou à penser, ben, tu sais, les physiothérapeutes, là, vu que ça fait 25 ans que tu pratiques, que tu as une belle vie clinique, là, 25 ans, les physiothérapeutes, ils allaient souvent aller se former en thérapie manuelle, en ostéopathie au début. Après que là, il y a plusieurs instances pour les physiothérapeutes qui se sont installés avec le temps. Si avec ta vie clinique, là, tu vois-tu des différences entre le type de thérapeute ou le type de physio qui ont été se faire former en ostéo au début, puis les physios qui maintenant prennent les cours de thérapie manuelle en physiothérapie?
Bien, c'est drôle parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé mon cursus il y a 25 ans, là, sans faire ça avec du recul puis avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, puis on était beaucoup influencé par l'ostéopathie en physiothérapie, en thérapie manuelle, ce qu'on apprenait. On ne faisait pas de viscéral, on faisait pas. On restait sur la portion articulaire, mais tu sais, je vais juste vous dire une affaire, mettons des axes de sacrum, là, que je ne comprenais rien, là, axe gauche-droite-droite. Puis en physio, on s'est simplifié la vie, là, on ne fait plus trop ça. Là, un sacrum, ça va faire de la nutation, la contre-nutation, de la rotation, puis là, après, ça peut aller nuter contre nuter juste sur un angle, mettons. Mais quand tu y penses, ça va revenir à la même affaire, c'est juste qu'on ne parle pas pareil. Fait qu'il y avait beaucoup d'influence de stéo. Mais à un moment donné, puis là, il y a des années 80, un prof au Québec qui c'était une pionnière, puis c'est grâce à Hélène Maheu qu'on est rendu ce qu'on est rendu en physio. Hélène, cette petite Québécoise, est partie pour s'en aller en Australie, parce que c'était en Australie que ça se passait, physio et la thérapie manuelle. Puis elle est allée se former avec Jeff Maitland. Puis quand elle est revenue après ça, elle a ramené ça au Québec. Puis aussi, on est où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est beaucoup, on est beaucoup basé sur cette approche de thérapie manuelle-là de Maitland, parce que Hélène intervenait avec ça. Ils ont monté le programme de formation continue qu'on fait, puis c'est ça. Puis grâce à Hélène, je ne veux pas dire que ce n'était pas correct, qu'est-ce qu'on faisait, tu sais, mettons, avant ça, mais on a évolué à nous amener à s'associer à ces organismes-là internationaux qui chapeautent, qui sont très sérieux, qui le watchguard de la thérapie manuelle dans le monde, iPhone et tout. Fait que le Québec, on s'est en allé, puis au Canada, beaucoup vers ça. Puis là, tu as eu le courant là, de penser de hands-off. Puis je pense que ça, c'est arrivé à un moment donné. C'est arrivé avec des fervents de la science qui ont dit, bien, de toute façon, qu'est-ce que vous faites? Puis vous avez le même problème en ostéo, il n'y a pas de preuves scientifiques, vous êtes des gourous, vous faites l'imposition des mains, puis de toute façon, tout ce que vous faites, ce n'est pas démontré scientifiquement, fait que ça ne vaut pas la peine de faire ça, puis on va juste travailler sur le psychosocial du patient, puis vous n'avez pas besoin de mettre vos mains sur le patient, vous mettez trop vos mains sur le patient. Ça, je ne suis pas d'accord, là. Mais tu sais, c'est venu un petit peu l'histoire du hands-off à un moment donné, je pense, du fait qu'on n'avait pas tant de science pour backer ce qu'on faisait en thérapie manuelle. Puis, c'est ça. Puis, nous autres, on était partis beaucoup en physio de l'influence d'ostéo parce qu'il y a beaucoup de physio quand ils finissaient leurs études. Ils sentaient qu'il n'y avait pas tant d'outils pour travailler. Fait qu'on avait ça, l'ostéo. Avant que moi, je gradue à la fin des années 90, il n'y avait pas tant de gros programmes de thérapie manuelle. Là. Le programme de thérapie manuelle est devenu fort là, à la fin des années 90, au début des années 2000. Là, on a eu vraiment une lancée. Puis c'est ça, c'était gros. Fait que les gens allaient beaucoup se former en ostéo. Puis probablement qu'ils ramenaient des choses de l'ostéo en physio, puis ils montaient des cours, puis ils essayaient de rester sur un côté plus articulaire, mécanique, musculaire. Fait que il y a tout ça qui a influencé. Mais là, vraiment, à un moment donné, il y a quand même pas mal plus de recherches qui ont commencé à se faire en physio. Puis en physio, on a voulu un petit peu plus faire reconnaître ce qu'on faisait avec la critique qu'on avait eue du fait qu'on faisait des choses qui n'étaient pas démontrées scientifiquement. Puis aussi, on se faisait reprocher en physio de juste travailler l'aspect articulaire. On se faisait reprocher de ne pas penser à ce qu'il y avait autour, les fascias, les muscles. Puis, tu sais, je vous dirais, on a changé le nom de notre programme au Québec. Avant, c'était l'Association québécoise de thérapie manuelle orthopédique. Puis avec tout ce débat-là de hands-off, puis de il n'y a rien qui est démontré, puis qu'on se faisait dire qu'on faisait juste des manipulations puis des mobilisations vertébrales, c'est devenu... Puis c'est pas vrai, parce qu'on fait plein d'affaires. Tu sais, on apprend plein de techniques de relâchement, de tout ça, pas juste articulaire. Fait que c'est devenu l'Association québécoise de thérapie manuelle avancée. C'est l'avancée, je pense que ça va avec la vague que je viens de vous dire. Là. Tu sais, qu'à un moment donné, on a décidé qu'on sortait de certains schèmes qu'on avait, on allait vers d'autres choses, on ouvrait nos œillères, nos horizons en physio manuel. C'était plus juste l'articulaire. Fait que, c'est ça. Fait que tout ça. Puis si je regarde avec du recul, on faisait beaucoup de choses qu'on avait pris, je pense, de l'ostéo. On a mis des choses de côté. Il y a des choses qu'on fait aujourd'hui pour avoir travaillé avec des ostéopathes. On fait des affaires pareilles. On ne fait juste pas les appeler pareilles. Puis, c'est peut-être juste pas la même école de pensée qui nous l'a amené. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus finir. On ne peut pas inventer des milliers de sortes de choses à faire avec nos patients. Là. Fait que c'est un peu tout ça. Là. Tu sais, c'était une grosse vague. C'est le courant historique des 25 dernières années. Si vous seriez avec Hélène Maheu, qui a pas mal plus de bagages que moi, elle pourrait probablement vous conter plein d'histoires aussi sur. Fait que c'est ça. Fait qu'on on a des choses qu'on a faites longtemps comme vous, je pense. Après ça, on a développé notre propre identité. Mais je pense qu'en quelque part, il y a bien des affaires qu'on fait, que vous faites qui se ressemblent. Là, c'est juste qu'on n'aborde pas les problématiques de la même façon.
Non, mais je trouve que c'est bien parce que aussi, tout ce qui est douleur du système musculo-squelettique, il y en a tellement. Il faut beaucoup de thérapeutes qui ont différentes personnalités dans leur pratique hein, pour offrir en fait aussi toute une gamme de thérapeutes pour qu'ils puissent servir ces patients-là, tu sais. Des fois, ils vont aller en physio, ça va super bien aller, ils vont continuer avec le physio, des fois, ils vont aller en ostéo, des fois en chiro, des fois en ergo, des fois, c'est de la masso qui va être bien. Les gens vont vivre tellement dans leur vie de ces problématiques-là, il faut beaucoup de cliniciens différents qui, des fois, vont apporter aussi une couleur, une connotation, une explication qui va aussi être en phase avec ce que le patient désire avoir comme type de traitement. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'on soit beaucoup, on va dire, des thérapeutes du système musculo-squelettique, là, si on y va dans le général. Puis je trouve ça c'est très, très bien là, qu'on puisse justement discuter de ces aspects-là, puis des ressemblances ou des différences aussi entre nos professions, en fait.
Je pense que ça revient à toujours reconnaître ses limites. Tu sais, puis moi, tu sais, je liaisais tantôt en disant que je ne comprends pas vite, ça fait 27 ans, je continue toujours à me former, mais je pense qu'un des points forts d'une personne qui se forme, c'est de finir par apprendre aussi qu'est-ce que les autres font. Puis à force de me former, bien, j'ai compris des choses que l'ostéopathe faisait. Il fait une coupe de cours de myofasciale, de thérapie crânienne, je mobilise des nerfs crâniens. Puis là, bien, ah, je comprends un petit peu, OK, l'ostéo, ouais, ça, je comprends ça. Puis là, bien, moi, j'ai fait des aiguilles. Un moment donné, je suis en recherche en aiguilles. Fait que j'ai fallu que j'aille lire des études en acupuncture. J'ai compris les méridiens, j'ai compris l'énergie qui circule, le yin, le yang. Tu sais, qu'en acupuncture, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, aujourd'hui, comme clinicienne, je suis encore plus efficace avec mes patients. Parce qu'à un moment donné, là, je dis, hey, tabarouette, je reconnais des points sur le méridien, la vésicule biliaire, tu sais. Puis, bien, crime, il y a quelque chose, mon patient, dans son épaule que je ne suis pas capable de ramener. Je pique cette tension-là avec une aiguille. Je travaille son articulation. Puis, ça revient tout le temps. Puis là, bien, là, as-tu des problèmes digestifs? Oui, j'ai des problèmes digestifs. Bien, Colin, là, je vais t'envoyer en acupuncture, puis on va lui dire de checker ta vésicule biliaire. Puis qu'est-ce que tu sais, le patient me rappelle 2 semaines plus tard, hey, merci. Merci, j'ai vu l'acupuncteur 2 fois, puis mon problème il est réglé. Ou, hey, toi, là, ça t'es toujours en thoracique à ce place-là, puis écoute, quand je te tourne en rotation thoracique, tu as genre 8 segments qui sont raides, j'ai une résistance, j'ai un vecteur de résistance qui vient d'intra-thoracique, puis ça, c'est hors de mon champ de compétences, mais je vais t'envoyer voir l'ostéo, j'ai l'impression que ta plèvre au niveau du poumon, il y a quelque chose ou quelque chose d'autre, mais il y a quelque chose dans les poumons. Je t'envoie un ostéo, puis le patient, hein, je te dis, là, la prochaine fois qu'il y a quelque chose, il va revenir te voir parce qu'il sait que tu es compétent puis tu es capable de référer à la bonne personne quand ça sort de ton champ de compétences. Tu es assez humble pour reconnaître que...
Ta limite.
Mais il faut être capable de reconnaître ses limites. Puis, il faut être capable de reconnaître qu'est-ce que l'autre fait à côté de toi. Qu'il y a peut-être des compétences, lui, que toi, tu n'as pas. Puis, je pense que c'est plus que tu vas te former, plus que tu vas ouvrir tes horizons, tu vas comprendre ce que les autres font, puis qu'est-ce que toi, que tu vas être capable de faire. Puis, d'avoir ce sens-là, d'être capable de dire, hey, ça, je vais l'envoyer à l'ostéo parce qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il y a un vecteur en dedans. Puis, ça, moi, en dedans, le vecteur, je ne sais pas c'est quoi, puis c'est hors de mon champ de compétences. Là. Fait que ça, c'est important, je pense, pour. De reconnaître les autres professions, de reconnaître les compétences des autres, puis de continuer toujours à aller se former pour devenir encore plus connaissant, puis d'être capable de s'allumer plus sur ces choses-là, puis être capable de référer à la bonne personne.
Oui, bien, de mettre le client ou le patient au centre de son traitement, de son intervention, finalement.
Bien, il y en a trop, hein, malheureusement, des gens dans nos domaines qui pensent qu'il y a juste eux autres qui sont bons. T'sais, mais quand tu penses ça, je pense que là, c'est là que tu es plus bon parce que tu es trop comme ça. Puis il y a tout le côté, on est tout en pratique privée, fait qu'on a notre survie à nous aussi, là, notre gagne-pain. Puis moi, tu sais, peut-être que où je suis rendue dans la vie, tu sais, à un moment donné, je ne cours pas après des patients, là, je suis obligée d'en refuser 12 par semaine. Fait que, tu sais, moi, mon patient, là, j'ai pas besoin de lui pour manger demain matin parce que mon horaire va être toujours plein. Fait que, tu sais, je vais le dispatcher plus facilement, peut-être à quelqu'un d'autre, puis je vais le voir bien moins souvent que certains de mes collègues, qu'il faut qu'ils remplissent leur horaire. C'est plate, là, de dire ça, là, mais ça reste que c'est notre métier. On est des personnes très dévouées, très empathiques, très centrées sur les autres dans la relation d'aide. Mais à un moment donné, c'est notre métier, puis je pense qu'il y en a qui, malheureusement, ou qui travaillent dans des endroits où ce qui... Je ne sais pas s'ils manquent de clients ou qu'ils sont trop business. On ne devrait pas être business dans nos métiers. On est là pour aider les gens. On n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des gens. Mais malheureusement, il y a des professionnels de la santé en pratique privée qui sont beaucoup sur leur petite poche, leur petit business. Il y en a qui ont des grosses cliniques. Il faut qu'ils remplissent tout le monde dans la clinique. Fait qu'ils ils vont squeezer les thérapeutes à voir les patients et à les revoir. Puis c'est là que le bas blesse, là, puis qu'on va se forger des mauvaises réputations. Parce que c'est pas ça qu'on devrait faire. On devrait être là puis donner ce que le patient a besoin. Mais une réputation, ça se construit sur du long terme. Tu sais, c'est pas sur du court terme, là. T'sais. Fait qu'il faut faire attention à cet aspect-là où est-ce que chaque petit thérapeute est quand même un entrepreneur, mais il ne faut pas qu'il pense à, t'sais, faut qu'il pense à son patient en premier. Là. C'est ça qui est important, je pense.
Dans les soins privés, t'sais, ça reste aussi ce risque-là est présent, t'sais, avec d'autres professions en massothérapie, en ostéo, en pratique autonome de physio ou autre. Là. Donc, effectivement, t'sais, ça, c'est quelque chose que peut-être la clientèle peut percevoir parfois, tu sais, cet aspect de j'ai l'impression que mon bobo est pas réglé parce qu'il veut que je sois maintenue à venir plusieurs fois pour peu importe le professionnel. Puis c'est sûr que ben il faut avoir à cœur, tu sais, le soin du patient puis le rétablissement du patient avant toute autre chose, mais ça peut être difficile. Ça peut être difficile, comme on dit, on a des débutants dans le métier qui ont de la difficulté à remplir leur plage horaire, qui ont de la difficulté justement à payer leur loyer, que ben tu sais ça vient qu'il faut trouver un équilibre entre les deux des fois. Donc je comprends ouais. que ça peut être une limite là, ouais.
Puis même, tu sais, même au niveau du système public, ça pourrait être un autre débat, mais tu sais, même au niveau du système public, les observations qu'on a du terrain, par exemple, là, avec des entités gouvernementales, bien, ça arrive souvent que la clientèle, elle revient de manière tellement souvent sans qu'il y ait d'amélioration de leurs conditions quand ils pourraient être réorientés vers un professionnel, justement, qui ciblerait peut-être la problématique puis qui ferait avancer le patient à être beaucoup mieux à son bien-être, autant dans sa douleur, dans sa fonction quotidienne, donc ou dans son environnement. Donc, ça pourrait être un autre débat, là. Mélanie, c'est ce qui m'amène à te demander, vu que tu connais la profession d'ostéopathie, tu nous côtoies au quotidien, qu'est-ce que tu nous souhaiterais pour l'avenir?
Bien, tu sais, ça fait longtemps, je pense, que vous essayez d'avoir un ordre professionnel, là. Puis ça, c'est un autre débat de société, là, tu sais. Il y a certains physios qui sont en défaveur. C'est encore la chasse gardée qu'on parlait. Là. Parce que là, selon ce qu'on a compris, l'Office des professions ne peuvent pas vraiment créer un nouvel ordre. Fait que là, il faudrait que vous rentiez probablement en dessous de notre aile, en physio. C'est des débats de société. Ça crée bien. C'est de la politique. Hein? En politique, quand tu t'embarques là-dedans, c'est sûr que la chicane va pogner à un moment donné. Là, parce que tout le monde a sa vision de la politique. Puis c'est là qu'il y a des guerres qui ont été déclarées, des grandes guerres dans le monde. Ceci étant dit, moi, je pense que d'encadrer votre profession, ça serait une bonne affaire. Parce que je nommerai pas d'école, mais il y a plusieurs écoles d'ostéopathie. Mettons, on va parler du Québec. Puis je suis pas sûre qu'elles sont toutes extraordinaires, les écoles. Il y en a qui, selon moi, t'sais, pourquoi qu'il y a des cursus de 7 ans et qu'il y a des cursus de 3 ans ailleurs? Ça m'a toujours épatée. Hey, c'est une méchante disparité là, entre deux programmes. Là. Après ça, ben, il y a aussi le questionnement. D'où provient cette personne-là qui fait son cours d'ostéo? Étais-tu pianiste? Ou étais-tu infirmière, étais-tu ergo, étais-tu physio? Ça aussi, ça a un impact sur la longueur peut-être du cursus parce que tu as quand même des connaissances de base à acquérir en science pour comprendre le corps humain avant de pouvoir traiter quelqu'un. On est d'accord là-dessus, je pense.
Comme toi qui as dû aller faire tes cours de secondaire avant de rentrer en sciences nature, sciences santé, là, ouais, exact.
T'sais, fait que ceci étant dit, je pense que s'il y avait un encadrement de votre profession, il y aurait une standardisation peut-être là, surtout, ben, ça commence à l'école, là, les formations. Puis ça vous donnerait, ça va aller dorer un petit peu plus votre image parce que là, il y aurait une uniformisation. Puis regardez, en physio, je vous parle de iFont. Bien, tous les pays reconnus où il y a des fellows dans le monde, on est régi par eux. Fait que, tu sais, tu peux t'en aller en Australie et tu vas trouver un modèle de soins, un modèle de thérapie. On va parler de thérapie manuelle, là, tu sais, qu'on a pas mal la même formation. On a des études de niveau maîtrise. On a fait des cours de recherche. Tu t'en vas en France, ils sont en train de s'accréditer. Tu vas retrouver ça en Angleterre. Fait que, tu sais, disons que c'est rendu que c'est standardisant. Je pense qu'on a juste une couple d'années d'avance sur vous autres, là. qu'on a standardisé ça, mais même à l'international. Là. Fait que les programmes de formation qui sont donnés sont de plus en plus standardisés, puis la science qui vient encadrer ça aussi. Fait qu'il faut que ça parte avec un encadrement de la profession pour que qu'est-ce qui se donne à la base comme formation, il y ait un certain standard, puis une certaine égalité des programmes. Puis qu'après ça, ben, je pense que là, la confiance va augmenter envers la profession, autant au niveau de la collaboration interprofessionnelle que du public. Parce que vous vous êtes fait bâcher dans les dernières années. Je sais qu'il y a eu des problèmes avec l'Ordre des physios, le Collège des médecins, avec l'Ordre des chiropraticiens. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Mais le problème, je pense, à la base, de mon point de vue à moi, Mélanie Rock, c'est un manque d'encadrement de la formation. Fait que si vous aviez un ordre professionnel, ça vous donnerait un encadrement de la formation, puis là, ça changerait vraiment la donne pour vous autres.
Je pense qu'on est tous d'accord. T'sais, moi, ça fait longtemps que moi, Isabelle, on milite, bien sûr, là, pour un encadrement. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait avoir pour, oui, redorer l'image, mais des fois, j'aimerais ça collaborer avec certains professionnels, puis il y en a qui sont peut-être timides à collaborer parce que premièrement ils me connaissent pas comme personne, ils savent pas c'est quoi mon background, donc peut-être qu'ils sont comme est-ce qu'elle a les connaissances ou pas, on ne sait pas vu la structure actuelle de la formation. Donc je pense que des fois il y a des portes qui se ferment pour moi ou pour d'autres de mes collègues juste parce que justement il y a ce doute raisonnable que je vais dire que la personne devant nous est un clinicien qui a une bonne formation ou non, qui se forme de manière récurrente année après année, est-ce qu'il a les connaissances, est-ce qu'il a le raisonnement ou il fait un peu n'importe quoi, c'est vrai que le doute peut persister pour un professionnel en physiothérapie, en ergo, en chiro ou autre. Donc, c'est sûr que je pense que l'encadrement, c'est vraiment notre modus operandi là, pour avoir vraiment une profession qui est pleinement reconnue. Là. Après ces discussions tellement enrichissantes aujourd'hui, on aimerait te remercier, Mélanie, là, de t'être prêtée au jeu avec nous de ce balado. Donc, on est bien heureuse d'avoir pu discuter avec toi. Donc, ça a permis de sortir des thématiques que je trouve super intéressantes. Puis j'espère que tu as trouvé ton expérience agréable. Je ne sais pas si tu avais un mot avant la fin, quelque chose que tu voudrais dire.
Merci là, de m'avoir invité, c'est vraiment le fun. Puis on aurait pu parler des heures de temps, je pense, encore de plein d'affaires. Là. On a même dérapé à partir de certaines questions que Isabelle avait posées. Puis ce que je veux dire, c'est sûr, je pense qu'il faut passer collaboration interprofessionnelle, puis de passer à la personne qui est devant nous, puis qui souffre, là, puis qui a mal, puis qui veut se faire aider. Puis de mettre au devant le patient et non nos intérêts personnels, là, tous les professionnels de la thérapie manuelle ou autre. Là. Je pense qu'il faut qu'on travaille en équipe et qu'on soit capable de reconnaître nos limites, peu importe la profession qu'on pratique.
Un très grand merci Mélanie.
Oui. Merci beaucoup, puis on se dit à la prochaine!